Binge Audio, Stéphane. Binge Audio. Je sais pourquoi j'ai dit Stéphane. Je connais pas de Stéphane. Hein.
Salut les amis, c'est Judith. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver pour ce tout premier épisode de notre deuxième saison. Cette année, nous nous retrouverons un vendredi sur deux pour de nouvelles grandes conversations autour de sujets de société qui nous concernent. Nous nous demanderons si c'est vraiment vrai qu'on peut plus rien dire et qui a le droit de dire quoi, et surtout, pourquoi. Aujourd'hui, je reçois une personnalité que j'admire beaucoup et qui me fait mourir de rire. Je l'admire car elle me fait rire, mais aussi parce qu'elle me fait réfléchir. En nous faisant marrer, elle nous inculque des concepts politiques et féministes. Comment faire rire ? Les scénaristes distinguent au moins deux types d'humour. D'un côté, il y a l'humour slapstick. C'est la blague peau de banane. Je regarde quelqu'un tomber et son désarroi me fait rire. De l'autre, il y a l'humour profond. L'humour qui nous fait rire parce qu'il nous fait aussi un petit peu mal, tellement il fait écho à une situation connue de nous tous. Pour qu'une blague soit vraiment drôle, il faut qu'elle soit dans le fond très sérieuse. Au 19e siècle, l'écrivain russe Gogol disait « Si on regarde attentivement et longuement une histoire drôle, elle devient de plus en plus triste ». Mais vous allez voir, en écoutant cette conversation avec notre invité Swann Périssé, on se rend compte que l'inverse est vrai également. Si on regarde attentivement et longuement une histoire triste, elle devient de plus en plus drôle. J'ai donc l'immense joie et l'honneur de recevoir l'artiste humoriste vidéaste Swann Périssé. Swann, bienvenue parmi nous.
Merci beaucoup, c'est vraiment un plaisir d'être ici.
Non mais laissez-moi parler, c'est vraiment insupportable.
On peut plus rien dire.
Vraiment, c'est n'importe quoi.
On peut plus rien dire.
Et la prochaine fois, ça sera quoi?
On peut plus rien dire.
Qu'est-ce que c'est que ça?
On peut plus rien dire.
On va le dire quand même.
Alors, Swann, première question que j'ai envie de te poser. Quand on te suit sur les réseaux sociaux, on sait que tu reviens d'un voyage en vélo de 1600 km. T'as fait Paris-Copenhague à vélo avec ton meilleur ami. Comment ça va physiquement?
Ça va, puisque ce matin, je suis allée courir. Après, j'ai fait 10 km à roller et je suis allée à la salle d'escalade. Donc en vrai, je le vis très bien.
Ah oui, t'es devenue accro au sport du coup?
Non, pas du tout. Ça faisait 2 semaines que j'avais rien foutu. Non, ça va trop bien. C'était un voyage incroyable. C'est vrai que c'est très très difficile physiquement de faire un truc comme ça, mais au bout d'un moment tu t'habitues et du coup t'es plus en phase avec tes sensations de nourriture, d'envie de sport, d'être dehors et tout. Et donc globalement c'est une fois que t'as passé le cap des douleurs insurmontables, une fois que tu l'as surmonté, et ben tout va bien. Donc ça
Pourquoi c'était un voyage qui était important pour toi?
J'ai découvert qu'on pouvait voyager à vélo il y a pas longtemps. Tu sais, quand tu croises des gens avec les lunettes de soleil et genre le casque et la petite visière de cycliste, ouais. Là, tu te dis, ben, c'est des professionnels.
Ouais.
Et en vrai, j'ai appris que ben, c'était pas forcément des professionnels. Ça pouvait être des gros touristes comme moi qui avaient jamais fait plus de 50 km à vélo. Et c'était important pour moi de prouver qu'on pouvait voyager très très loin, dans des conditions de confort pas ouf, mais en des conditions de rigolade et de plaisir immense, sans dépenser de carbone. Enfin, sans prendre l'avion, sans prendre la voiture. Et voilà, bah j'ai réussi à le prouver qu'un petit corps dodu, qui est motivé, peut aller au bout du monde de façon écologique et joyeuse.
Moi, c'est justement une des raisons pour lesquelles j'avais hyper envie de te recevoir et de te rencontrer. C'est que déjà, bon, tu me fais mourir de rire sur les réseaux sociaux, mais pas seulement. Je considère que tu es une des figures vraiment importantes en ce moment du féminisme et de l'écologie. Parce qu'avec tes vidéos, donc tu nous fais rire, mais tu diffuses aussi des messages essentiels qui nous font réfléchir sans donner des leçons de morale. Pardon, cette phrase est alambiquée, mais voilà, c'est ça que je veux dire. Tu nous fais rire et en même temps, ça nous fait réfléchir. J'en ai sélectionné quelques-unes, même si ça a été hyper dur de faire un choix. J'aimerais bien qu'on en écoute une petite ensemble.
Pendant quelques mois, j'ai couché avec un sex friend qui me faisait pas de cunis. Au bout d'un moment, je lui demande, tu vois, je lui dis, est-ce que t'aimes pas ça? T'as un problème? Est-ce que tu sais pas faire? Et là, il me répond ce truc incroyable, il me dit, non, mais c'est juste que je me rendais pas compte de quelle intimité toi et moi on avait. Jouir sur mon visage, c'est quel degré d'intimité pour toi? Mais c'est vrai qu'en général, quand je fais des gorges profondes, c'est pas intime. Moi, je fais ça à n'importe qui. Hein. Moi, c'est professionnel. Hein. Et puis surtout, si pour toi, on n'est pas intime, là,
j'ai vraiment peur de ce que tu vas me faire quand on sera intime.
Franchement, j'ai peur. Les oreilles, c'est pas une option. Genre, ça rentrera pas, t'auras beau insister, il y a des tympans derrière. Et après, il me dit, ce que je veux dire, c'est que je savais pas qu'on avait ce genre de relation.
pensais qu'on avait quoi comme genre de relation? Une relation inégale.
Relation à sens unique.
Une relation du genre je donne sans rien attendre en retour.
Une relation parent-enfant en fait.
Ça va avec ta mère? Franchement, petit conseil, posez-vous des questions, parce que si vous avez un sex friend et que lui c'est surtout le sexe et vous le friend, gardez-les en friend. Ouais, ça fait beaucoup le mot friend, mais j'adore la série.
On peut plus rien dire. Mais on va le dire quand même.
Là, tu vois, c'est... En fait, c'est hyper criant de vérité ce que tu décris dans cette vidéo. C'est le manque de considération au plaisir de l'autre ou l'inégalité sexuelle. Comment ça s'est passé, les coulisses de cette vidéo?
Ben, déjà, merci beaucoup pour tout ce que tu as dit. Ça me touche énormément. Et ça me fait plaisir que ça rayonne, parce que... En fait, ça rayonne aujourd'hui, mais ça fait 2-3 ans que j'aimerais être cette personne et incarner ses valeurs. Et ça a mis du temps de pouvoir les incarner, de pouvoir passer des messages comme ça, donc encore merci. En général, ça vient de grandes souffrances. Hein. Au début, je rigole pas quand le mec me dit « je savais pas qu'on avait ce genre de relation », ça me fait pas rire du tout. Donc, bon, moi j'ai une carrière de stand-up à la base, on en parlera plus tard, je pense, mais je suis humoriste sur scène et souvent dans la vie, quand je ressens des injustices dans ma vie intime ou quand j'assiste à des trucs qui m'effarent, bah c'est soit de la tristesse, soit de la colère. Et ensuite, bah je note. Alors, soit je note des phrases qui me font rire ou qui me frustrent, soit bah j'y pense pendant toutes mes insomnies pendant 3 mois et ça m'énerve. Et la comédie, elle vient souvent quand il y a un petit peu de temps, un peu de recul. En général, c'est un peu plus nuancé. L'issue, bah par exemple, ce mec dont je parle. Je lui ai dit que j'allais en parler sur Instagram, tu vois, genre sur une vidéo qui a fait plus 1 million de vues, je crois. Et souvent, il y a eu résolution, on en a parlé, il a reconnu l'égoïsme, tu vois. Ou alors, il y a eu résolution pour moi, tu vois. Je me suis dit, bon, bah, c'est un con, ou ça, je l'ai mal vécu parce que aussi, ça touche à mon histoire personnelle ou quoi. Donc, en général, il y a une petite résolution. Et puis après, j'essaie de trouver des vannes et j'en parle avec mon copain Mathéo, celui avec qui j'ai... qui est l'un de mes meilleurs amis, celui avec qui j'ai fait Paris-Copenhague. On coécrit ensemble le stand-up, les vidéos et tout. Et en gros, on se pose et on se dit ça serait drôle de transformer ça en comédie. Donc on est genre sur un canapé ou assis par terre comme des gros hippies. Et en gros, on échange et on rigole, tu vois. Donc moi, je vais lui dire, mais il m'a vraiment dit ça. Et genre, ce qui m'énerve, c'est que c'est abusé. Parce que genre, comme si un cuni, c'était plus inconfortable qu'une fellation, tu vois. Donc on rigole, ha ha ha. Et en plus, il m'a dit ça, mais cette phrase, mais c'est pas possible, tu vois. Du coup, il sort une vanne, je sors une vanne et tout. On se met dans un espèce de petit processus créatif où on se tape des énormes barres et on rigole fort fort. Et on écrit tout. En général, allez, on arrive à rebondir, on a 4-5 minutes de vanne, et après on réduit, on choisit les plus simples, les plus pertinentes, les plus touchantes ou les plus criantes de vérité, et on se le dit, ensuite je me filme, et ensuite on monte, et au montage c'est encore un autre écrémage, on va garder les vannes, et les plus touchantes, les plus drôles, et on se rend compte qu'il y a vraiment un besoin de simplicité dans la comédie, et dans le stand-up en général, c'est le plus évident, mais le plus pur. Et en effet, celles qui apportent le moins de morale, le moins de jugement, qui vont être les plus drôles, quoi.
Ça prend combien de temps de faire une vidéo comme ça?
Ben, moi, ça fait 1 an que je fais des vidéos comme ça. Ça fait 10 ans que je fais... Pas que je travaille sur cette vidéo, mais ça fait 10 ans que je fais du stand-up. Donc, d'une certaine façon, je suis déjà très aiguisée. Ça devient un exercice. Ben, c'est comme le sport. Tu vas faire ton premier footing de ta vie, t'es en PLS. Mais si tu le fais 20 minutes tous les jours, forcément, 10 ans plus tard...
Oui, heureusement, ouais, voilà. Bien sûr.
Donc, le plus long, c'est l'écriture. Si c'est très intuitif, ça peut mettre une demi-heure. Si on galère, parce qu'on a vraiment envie de parler d'un sujet... et qu'on ne trouve pas d'angle. Tu vois, par exemple, la sortie de Kylian Mbappé il n'y a pas longtemps sur le fait qu'il se soit tapé un fou rire quand on parlait du TGV. C'est un peu compliqué parce que tout le monde a rigolé dessus et qu'il faut trouver le bon angle et tout. Donc là, ça peut, si je veux faire des vannes là-dessus, ça peut prendre 2 heures. 2 heures, voire 1 heure et demie, puis on galère. Du coup, on y retourne le lendemain ou 2 jours plus tard, on laisse reposer le cerveau. Et ensuite, faire le montage, sous-titrer et tout. En tout et pour tout, ça prend 1 journée, quoi. Du début de l'idée à la fin de l'idée, si on fait tout d'un coup. Mais souvent, on va brainstormer, écrire, y revenir 2 jours plus tard, ensuite faire le montage et tout. Mais une journée de travail.
Ça part souvent d'émotions négatives, c'est des choses qu'on t'a dit qui t'ont rendu triste ou qui t'ont révolté. C'est souvent de là d'où ça vient?
Ben, ça dépend, parce que là, t'as choisi une vidéo, je pense, très drôle parce que très vraie, qui touche beaucoup d'autres gens. Et une vidéo très engagée, mais je fais aussi... des blagues sur les courbatures, le caca, le fait de trébucher en public. Enfin, tu vois, je suis humoriste avant tout, donc ça va
enfin voilà, ça va pas. Enfin, je vais pas faire d'insomnie en pensant à mon caca. Enfin, j'espère. Mais donc ça, c'est oui. Mais en tout cas, celles qui marchent le mieux, celles qui sont le plus engagées, c'est souvent des blessures qui partent de l'intimité, mais qui vont toucher énormément de gens. Donc en fait, ça touche un trait de la société. Grave, quoi. Moi, je souhaite qu'une vidéo sur un mec qui veut pas te faire un cuni ne fasse pas beaucoup de vues. Mais si elles font des centaines de milliers de vues, ces vidéos, parce que ça touche à un problème de société qui est l'orgasme gap, enfin le fait que les femmes ont moins de plaisir au lit que les hommes dans une relation hétérosexuelle, le fait qu'il y a un dégoût du sexe féminin, le fait que la culture pornographique fait qu'il y a plus de sexe oral des femmes envers les hommes dans l'imaginaire collectif, etc. Donc en fait, ça vient toucher à des sujets très très sérieux. Mais nous, notre but, c'est de surtout pas montrer les sous-couches qu'il y a derrière. Ça résonne comme ça résonne dans la tête des gens. Et ça touche souvent parce que c'est vrai, quoi.
En fait, ce qui est merveilleux, c'est que tous ces concepts féministes qui sont précieux, qui nous ont libérés, dont on a besoin, qui sont parfois un peu ardus à concevoir ou ardus à comprendre... Toi, t'arrives à les, comme ça, à les faire comprendre en une minute, quoi. Et ça, je trouve ça vraiment, enfin, vraiment bravo. Bon, j'ai pas passé une heure à te faire des louanges, mais vraiment, je voulais le dire. Et une autre qui, pour moi, fonctionne sur le même ressort, c'est celle sur les poils.
J'ai sorti une vidéo sur un mec qui m'a demandé de m'épiler pour faire l'amour avec lui. Depuis que j'ai sorti cette vidéo, j'ai reçu environ 200 messages de mecs qui me disent « Hey, si tu veux, on peut faire l'amour, ça me dérange pas les poils. Ça te dérange pas ?» Et ça, c'est censé me séduire. Tain, et j'ai rencontré un petit mec. Franchement, il m'a rendu dingue. Il m'a dit que ma nature le dérangeait pas. D'accord. Il y a d'autres mecs qui carrément m'ont dit « Moi, je supporte pas les femmes qui s'épilent. » Je comprends pas, c'est quoi votre vision de la sexualité ? Descendre une culotte et que ça corresponde exactement à ce que vous aviez en tête ? On n'est pas une maison qui a été construite selon vos plans d'architecte, en fait. Cette chatte correspond exactement à ce que j'avais en tête. C'est du solide, ça. Ça tient pour longtemps, ça. Le crépi, c'est un petit cachet, là. Tiens, il y a un petit reflet roux sur la devanture. Bah, ça ne me dérange pas. Ça t'excite ? Bah non, ça nous excite pas. Ça, vraiment, enfin, ça ne m'excite pas. Excitez-nous. Faites des efforts pour nous exciter, en fait. Tout ce qu'on fait pour vous exciter. Faites des efforts.
Je te voyais rigoler, c'est...
Moi, je la trouve très drôle, cette petite
humoriste. Non, elle est super.
Non, ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu.
Non, et là aussi, c'est pareil. Ça dénonce quand même une inégalité, une injustice qui est atroce, quoi. Qui est de dire... que les hommes s'attendent à trouver une poupée en fait en face d'eux ou à quelque chose qui est, comme tu dis, qui correspond exactement à leurs attentes.
Moi, je pense pas que tous les hommes s'attendent à ça, non. Mais certains, d'ailleurs, il y a beaucoup d'hommes qui suivent mon travail et qui sont morts de rire ou voire scandalisés quand ils entendent ce genre de choses. Bah, en fait, moi, j'essaie toujours de trouver l'angle qui est pas genre de pointer du doigt ces hommes, mais plutôt de tourner au ridicule parce que ben, j'espère que pour plein de gens, en tout cas c'est le cas pour moi, la sexualité c'est autre chose que de souhaiter voir une vulve, un vagin qui correspond exactement, un sexe qui correspond exactement à ce qu'on veut, quoi. Oui, c'est sûr. Ben, en fait, d'abord j'avais fait une vidéo d'un mec qui m'avait dit en gros qu'il était trop libéré sexuellement et tout, et je racontais, bah, moi, ça m'intéresse, donc je réponds. Franchement, c'est plutôt intéressant. Et ensuite, donc je fais cette vidéo. Donc, le gars me dit, oui, mais il faut que tu sois épilée. Donc, je dis, bah non, c'est le contraire d'être libérée sexuellement. De dire, bon, bah, il faut que tu sois épilée. C'est le contraire de ce que tu vends, en fait. Et à la suite de cette vidéo, il y a des gens qui m'ont dit, ah ben non, mais une femme épilée, c'est dégueulasse. Je dis, ah, mais vous avez rien compris au sujet, quoi. Oui, ça part d'injustice. Mais il y a plein d'injustices ou de trucs que j'ai envie d'écrire, puis j'arrive pas à écrire parce qu'il y a rien qui est drôle, quoi. Il y a rien qui est drôle. Là, c'est drôle, c'est assez léger. Puis ces gens sont pas très épanouis sexuellement, je pense. Donc c'est facile de rigoler d'eux, quoi.
Comment t'es devenue féministe ?
Ah là là, très très bonne question. Ah ça y est, j'ai la réponse. Ben j'ai commencé le stand-up il y a 10 ans. Donc je pense qu'on était moins de 10% de femmes sur les scènes, quoi. Et puis, bah voilà, moi, j'avais 6 minutes sur scène. Bon, ça a beaucoup changé. Aujourd'hui, le stand-up, je dirais pas que c'est égalitaire, j'en sais rien, parce que ça fait longtemps que j'ai pas traîné dans les clubs de stand-up. Mais en tout cas, il y a 10 ans, quand j'ai commencé le stand-up, on était une meuf, un plateau sur deux. Donc, en gros, ça faisait 5 mecs sur un plateau où il y avait pas de meuf, puis 4 mecs et une meuf. J'ai développé toute, tout mon humour et là où, en gros, quand tu fais du stand-up, tu vas sur scène pour roder un peu des 5-6 minutes et tout. Tout ça, je l'ai développé dans un club de stand-up qui était vachement sexiste, tenu que par des hommes, pour des hommes. Donc moi, j'avais le droit de monter 6 minutes sur scène et les mecs, genre 14 minutes, 15 minutes. Ouais, c'était l'enfer. Et bah du coup, en plus, tu deviens moins fort, quoi. Dès que tu prends un beat, c'est parce que t'es une meuf et que t'es pas drôle. En tout cas, c'était le cas à l'époque. Encore une fois, je parle de mon expérience, moi. Alors que les mecs, ils prennent des bides, ils remontent sur scène juste après, c'est juste le public allait pas ou ils ont plus confiance en eux. C'est beaucoup de choses, c'est pas que dû à ce pauvre club de stand-up qui m'a pas amené très loin, quoi. Mais voilà, là, je l'ai vraiment subi de plein fouet. Mais parce que j'ai été privilégiée, j'ai grandi à Paris, je suis fille de deux parents qui vont très bien, de classe moyenne supérieure. J'ai grandi à Paris, j'ai fait des études très privilégiées, très, très réputées. Donc forcément, moi, j'ai découvert le sexisme et le stand-up à 22 ans, tu vois. Donc je tombais des nues parce que j'avais été toujours protégée dans un milieu où, soi-disant, en tout cas, avant 22 ans, il n'y a pas de discrimination.
Après, je crois qu'on est beaucoup quand même enfin, évidemment, on a cette chance, mais avoir découvert le sexisme au moment où on se lance dans une vie professionnelle, quelle qu'elle soit. Parce que je pense que pendant nos études, on est encore un petit peu protégé de ouais. Tout ça.
Ben, je ne sais pas si tout le monde est protégé pendant ses études.
Non, pas tout le monde. Non, bien sûr, bien sûr.
Ouais, en tout cas, moi, je l'ai découvert vraiment en allant dans ce milieu qui était un milieu très différent du mien, avec personne dans ma famille qui était artiste ou qui venait du théâtre, quoi. Et puis, en gros, le féminisme m'a aidé à mettre des mots sur des injustices que je subissais. Et encore une fois, moi, le féminisme, pour moi, c'est une question de ce que tu crois intime, ce que tu crois individuel, quand tu crois être seul, point E ou seul, hein. Et ben, en fait, et politique, il y a d'autres femmes, d'autres hommes qui souffrent du patriarcat. Puis là, tu lis et tu dis... Puis tu lis l'histoire de quelqu'un qui a voulu faire de la boxe et tu te rends compte que c'était la même chose. Toi, tu faisais faire du stand-up, elle voulait faire de la boxe. Enfin, voilà. En gros, pour moi, c'est mettre le doigt ou des mots sur des mots M-A-U-X que tu subis au quotidien, quoi. Et je me souviens avoir beaucoup écouté le podcast La Poudre de Lorraine Bastide. Qui m'a ouvert les yeux sur plein de trucs parce que plus tard, j'ai ouvert une entreprise et puis j'avais que des copains garçons qui ouvraient des entreprises qui étaient « Ah, c'est super simple, moi je galérais avec mes papiers administratifs ». Puis j'avais aucun modèle de mon âge féminin qui le faisait, quoi. Et en fait, écouter beaucoup ce podcast, donc pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des interviews de femmes inspirantes, diverses et variées, à qui on ne donne pas la parole dans d'autres médias. Et en gros, avoir découvert... cette nana qui ouvrait son entreprise, cette femme qui luttait contre les discriminations contre les femmes musulmanes, cette femme écrivain, cette femme réalisatrice, cette femme qui avait jamais entendu parler de féminisme, mais qui évoluait dans le milieu de la défense des abysses maritimes. Genre, j'étais là, c'est un délire et tout. Et en fait, de découvrir un panel de femmes qui faisaient des trucs différents, ça m'a aidé à me sentir pionnière dans le métier que je faisais et à me dire, je suis pas la seule à lutter, même si je me sentais un peu seule dans le stand-up, finalement, il y avait plein de femmes qui vivaient d'autres choses dans d'autres milieux.
C'est comme ressentir une forme de sororité.
Ouais, ouais. Et puis je me dis, elles se sont battues pour, je sais pas, être députée. Moi, je me battrais pour être drôle et avoir ma place sur les plateaux de stand-up. Aujourd'hui, l'humour a beaucoup changé. Et moi, je suis surtout sur les réseaux et je reviens dans le stand-up un peu connu, quoi. Donc c'est différent. Quand t'arrives et que c'est toi qui as rempli la salle, forcément, c'est toi qui fais 20 minutes et le débutant homme qui fait 5, puis ça a changé. Ça a changé, quoi.
Oui, il y a des nouvelles salles qui ont été ouvertes par des femmes.
Ouais, notamment le Barbès Comedy Club qui a été ouvert par Shirley Soignon. J'ai cru entendre parler que ça allait fermer, malheureusement, mais ce club de stand-up est incroyable. Il y a plein de clubs qui sont beaucoup plus égalitaires aujourd'hui.
Comment on fait pour être drôle?
On travaille beaucoup. Parce que c'est pas du tout facile d'être simple, d'être drôle. C'est marrant que je dise simple. C'est Seinfeld, je crois, qui disait « Stand-up comedy is simple, but it's not easy. » Tu vois, donc c'est pas la même chose en anglais,
c'est
tu vois.
C'est simple,
mais c'est pas facile. Donc en fait, c'est trouver la simplicité. Pour moi, c'est vraiment faire du montage vidéo. Donc t'as genre plein d'idées, ça part dans tous les sens, ou de l'écriture. Donc, je suis pas écrivain ni autrice, pas encore, mais en gros, je suppose que voilà, quand tu veux écrire ton intro, t'écris 10 pages, donc t'as tes idées, puis tu resserres pour que ça fasse 5, puis tu resserres pour qu'il y ait que les mots qu'il faut, tu vois. Donc, tu travailles beaucoup, tu travailles énormément sur ton ego, je pense, et ça, ça va être le combat de mes deux prochaines années, parce que je voudrais vraiment revenir sur scène avec quelque chose de différent. De tout ce que j'ai fait avant. Et je pense que mon plus gros ennemi, ça sera mon ego, parce que tu te prends des gros bides devant des publics, tu dois accepter que ce que tu fais, ça peut être plus drôle, plus sensible et tout. Et tu rigoles beaucoup avec tes potes. Et je pense que ça va de pair avec un quatrième conseil ou le même, mais moi, je me protège beaucoup. Genre vraiment, j'écouterais 0,1% des gens qui me font des retours, en fait. Parce que ce que j'ai envie de raconter sur scène, c'est mes opinions, appuyées sur, bien sûr, beaucoup de recherches et de lectures, mais aussi ce qui me fait trop me taper des barres à moi et mes potes. Et en fait, j'aimerais, ce qui me fait rigoler avec Mathéo, avec Louane, c'est des gens avec qui je traîne beaucoup, dans le privé, je veux lui donner du sens et l'amener sur scène. Mais en fait, l'humour, c'est super subjectif, donc j'ai pas besoin d'un humoriste mec qui veut pas parler des mêmes sujets que moi à côté de moi, qui va me dire ouais mais ça c'est drôle, ça c'est pas drôle, chose que j'aurais aimé savoir il y a 10 ans quand je faisais du stand-up, tu vois. Donc en fait, je pense qu'il faut vraiment trop se protéger, et en même temps tu l'as cherché, tu vois. Si tu vas sur scène, après tu parles avec tes abonnés, tout le monde va dire moi je pense que tu devrais faire ci, moi je pense que tu devrais faire ça, cette blague je l'ai trouvée pas très drôle, ça te fait rire de faire rire sur l'écologie, là c'est un peu sexiste envers les hommes, là c'est un peu sexiste envers les femmes, bla bla bla. Comme dirait Isabelle Balkany sur le réchauffement climatique, elle a tweeté un truc genre « Le réchauffement climatique, blablabla. Bla, » Super, Isabelle. Et merci, Isabelle. Bref.
Et tu parlais de bide à l'instant. Est-ce que tu as un C'est quoi ton pire bide?
J'ai eu deux bides terribles. Un qui était très, très long. C'était 10 minutes en première partie de Mathieu Madénian devant 900 personnes à Cholet. Genre, il y a peut-être 6-7 ans. Donc ça, c'était vraiment dur. J'ai eu aucun rire. Genre, vraiment un couloir. Et j'ai eu un autre bide, c'était en première partie d'Anne Romanoff, il y a quelques années, à Nantes. Et en gros, j'avais une productrice qui était dans la salle, ça faisait un mois ou deux qu'on travaillait ensemble, le même passage. Donc quand tu fais du stand-up, tu travailles en 5 minutes, en 6 minutes, en 7 minutes. Donc on l'avait travaillé, on l'avait réécrit et tout. Je bide en première partie d'Anne Romanoff. On devait dîner ensemble après le spectacle. Et finalement, ma productrice m'esquive. Elle va dîner sans moi avec Anne Romanoff, tu vois. Alors qu'à l'époque, c'était un peu mon idole et tout. Et en fait, le lendemain, on avait rendez-vous pour répéter. Et en fait, elle me dit, ouais, du coup, ça l'a pas trop fait. Je pense qu'elle me ment sur les propos d'Anne Romanoff, parce que j'ai jamais eu l'occasion d'en parler avec Anne, et il faudrait d'ailleurs. Mais elle me dit des choses que soi-disant elle aurait dit, alors que... Enfin, Anne, je la connais, elle encourage plein d'humoristes, elle est quand même très très bienveillante et tout, donc soi-disant elle aurait dit des choses négatives. Mon passage était nul, tu vois, genre c'était nul ce que j'ai fait, donc c'est normal qu'elle ait dit ça, mais je pense pas qu'elle ait dit il faut travailler avec elle ou pas travailler avec elle, quoi. Et donc cette productrice me annule 40 dates qu'elle m'avait programmées dans son théâtre. 40 dates devant moi, et puis elle me dit en gros on travaille plus ensemble, ça m'intéresse plus, quoi.
T'as fait quoi après?
J'ai fait une dépression. J'ai fait une dépression pendant 4 mois, genre. J'ai fait une dépression, j'avais genre 23 ans, j'étais vraiment un petit bébé, j'avais pas trop d'amis dans le milieu, j'avais le pied cassé, en plus après j'ai eu d'autres problèmes de santé et tout, et puis j'étais découragée à vie, quoi, genre, enfin pas à vie, regarde parce que j'en suis là aujourd'hui, mais j'étais découragée et tout, et je m'en suis remise quelques mois plus tard. Bon, en gros, j'ai suivi une agression sexuelle, coucou, et avec coups et blessures, et donc j'avais le nez cassé un ou deux mois plus tard, et j'ai gagné le procès, j'ai gagné des sous avec ce procès, et ça m'a permis de partir à New York, donc avec les sous du procès de l'agresseur sexuel, coucou, la vie trop cool, j'ai pu partir me payer un voyage à New York, je suis restée 3 mois à New York et j'ai fait du stand-up en anglais, et ça c'était incroyable, et donc ça a été un gros, gros changement dans ma vie. C'était incroyable. Puis j'ai appris l'humour de la comédie, puis à me débrouiller toute seule et à pas me dire que j'avais besoin de cette productrice pour réussir à faire des vannes. Et voilà, je suis trop contente, quoi. Mais ouais, en gros, j'ai fait une dépression, quoi. J'étais un bébé. Puis quand t'es jetée dans ce milieu-là, t'as pas d'adulte référence, à part ces gens-là qui te manipulent un peu. Et voilà, aujourd'hui, moi, je trouve ça ridicule, même la carrière de cette femme est toute mignonne et tout. Mais si aujourd'hui, elle venait dans ma vie, je saurais qu'elle ne peut pas m'aider parce qu'elle fait... elle est gérante d'un théâtre, donc c'est même... personne ne la connaît, tu vois. Genre, elle est toute mignonne à gérer son truc de son côté et c'est super respectable. Aujourd'hui, elle viendrait dire « je vais produire un spectacle », ça me paraît très évident que ce n'est pas une productrice de spectacle. Mais à l'époque, bah, tu t'accroches à ce que tu peux. Puis tu sors d'un système où tes références, c'est des adultes. Quoi, donc, voilà.
Tu viens de mentionner d'avoir vécu une agression sexuelle. Est-ce que tu serais OK pour nous en dire un peu plus ?
Oui, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas du tout celle qui m'a traumatisée le plus, mais c'est la seule où le gars elle est en prison, du coup. Je peux vous la raconter. Puis je sais que ça arrive rarement. Donc, parmi mes agressions sexuelles, il y en a eu une où le gars était en prison. Non, mais en gros, je me suis fait toucher dans le métro, comme ça arrive très régulièrement. Je pensais que ça allait mieux, mais là, de faire une semaine à Paris, je me suis rendu compte que ça n'allait pas mieux. J'étais dans le métro, en robe. Je dis en robe parce que le gars a touché ma cuisse. Et en gros, il m'a croisé. Le gars m'a croisé, il m'a juste mis la main sur la cuisse et il est remonté entre mes jambes, quoi. Mais vraiment, genre en passant, genre en se servant. Et je me suis retournée et je l'ai poussé. Et en fait, le pauvre, il m'a mis un gros poing dans la gueule. Et en fait, il m'a fait 4 fractures au visage. Ouais, très réactif, le mec. Et en fait, bah, c'était tout filmé. Et genre, j'ai volé, je suis tombée par terre, j'étais en sang. Donc, c'était super dramatique. Et j'étais déjà éveillée au féminisme. Donc, je savais, et ça m'était déjà arrivé, de me faire agresser dans le métro. Donc, puis avec un mec qui avait dit « Non, c'est pas moi, je l'ai pas fait ». Donc j'avais déjà porté plainte, donc je savais exactement ce qu'il fallait faire. Donc je me suis relevée très vite. Les gens, bien sûr, n'avaient pas vu l'attouchement sexuel, mais ils avaient vu le coup.
Le coup.
Et ils voyaient que j'étais enceinte, donc j'ai dit exactement ce qu'il fallait faire. Enfin, je savais exactement ce qu'il fallait faire. Donc je me suis levée, j'ai dit arrêtez-le, il m'a agressée sexuellement, je saigne. Tu vois, j'ai le truc que t'es trop timide de dire d'habitude parce que t'es choquée, vu que j'avais déjà porté plainte pour une agression qui n'avait pas abouti, je savais exactement ce qu'il fallait faire. Et en fait, il est rentré dans le métro et vu que je criais fort, que c'était très visuel parce qu'il y avait du sang partout et tout, ben le chauffeur n'est pas parti. Donc en fait, il était dans le métro et il y avait des gendarmes dans la station. Donc vraiment, ça n'arrive jamais. Il y avait des gendarmes genre limite sur le quai d'en face. Et donc je me souviens plus parce que j'étais un peu choquée, mais genre je pense 35 secondes plus tard, il était menotté le gars. Genre vraiment le truc qui n'arrive jamais, genre. Mais parce que les gens m'ont aidée aussi, en vrai. Mmh. Parce que j'ai dit aux gens, arrêtez-le.
Oui, parce que tu savais comment réagir.
Voilà. Ne le laissez pas partir, s'il vous plaît, il m'a agressée, tu vois. Et bon, il y avait des gendarmes dans la station, donc forcément, genre 50 témoins qui ont vu une meuf se faire tabasser, du sang partout, une meuf qui s'exprime super bien, qui est super grande gueule, qui dit, voilà le déroulé de la situation, genre à voix haute et tout, genre c'est... Enfin voilà, donc il y avait eu plusieurs essais, quoi. Et le gars est parti en garde à vue, enfin, est parti en prison, en prison, genre. Il est resté 2 mois en prison. C'est terrible. Pour le coup, moi, je trouve ça terrible, mais tout était contre lui, tu vois. Il y avait la vidéo, tout était prouvable. Et en gros, je pense que tu passes devant un juge immédiatement. Et en gros, la juge a dû lui dire qu'est-ce qui s'est passé. Et le gars a dit j'ai pas, ou je sais pas quoi. Il a dû mentir. Et elle a dit moi, j'ai une vidéo d'un gars qui tabasse une meuf qui fait 1m10. Donc, je vous mets en prison jusqu'au procès, quoi. Yes.
Et toi, t'as trouvé ça terrible qu'il soit incarcéré ?
Moi, je crois pas trop à l'incarcération. À la fin, et il faut le dire, hein, il a pas été puni pour agression sexuelle parce qu'on n'a pas pu prouver l'intention de ses attouchements. Super. Donc, il a été puni pour coups et blessures, même si les juges ont commencé le procès en disant pourquoi vous avez attouché madame, quoi. Donc, en gros, les juges... mais la qualification de sa condamnation, c'était coups et blessures. Oui, c'est super violent. Oui, c'est super violent.
T'es devenue extrêmement célèbre, enfin, en tout cas encore plus célèbre, avec une très belle vidéo que t'avais réalisée qui s'appelle « Il m'a quitté par mail ». C'était une vidéo où tu revenais sur un gros chagrin d'amour. J'aimerais bien qu'on écoute le tout début, si t'es d'accord.
La personne qui m'aimait ne m'aime plus. Ça, c'est dur. Je vais essayer de me filmer au moins une fois par semaine ces prochains mois pour vous montrer ce qu'il en est. Swann Périssé, si tu regardes cette vidéo, you're gonna be fine.
Alors, prochaine, je vous ai fait rigoler en vous parlant de mon agression sexuelle. Je vous ai fait rigoler en vous racontant une histoire avec un homme violent. Et je vous ai fait rigoler en vous parlant du jour où j'ai failli mourir. Mais aujourd'hui, malheureusement, je sais pas trop si on va rigoler ensemble en regardant cette vidéo. Je suis restée 2 ans et demi avec un homme que j'aimais à la folie pendant plusieurs mois. Il m'a proposé d'emménager chez lui et un jour, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai dit « Ok, j'arrive ». On avait une relation à distance, je suis allée lui rendre visite quelques semaines avant de donner mon préavis. On a fait l'amour, on s'est dit des mots d'amour. Et le lendemain, j'ai reçu un mail de 10 lignes avec une faute d'orthographe à chaque ligne dans lequel il me disait que non seulement il ne voulait plus vivre avec moi, mais qu'en plus, il ne voulait plus continuer la relation avec moi. Et on ne s'est jamais revus.
On ne peut plus rien dire.
On va le dire quand même.
Cette vidéo, elle a été la plus vue de YouTube France pendant 3 jours, c'est bien ça. Tu savais que ça aurait un tel retentissement ?
Non, je ne savais pas que ça aurait un tel retentissement, mais j'ai fait le montage en 3 jours. Enfin, toute la vidéo n'est que montage, en fait. Et j'ai tourné cette intro à la fin du montage, c'était prêt.
C'est, tu t'es filmé quasiment toutes les semaines pendant les 6 mois après la rupture. Et après, tu en as fait cette vidéo.
Voilà, exactement. Et je sentais que c'était juste, quoi. En gros, quand j'ai fait le montage, je sentais qu'il se passait un truc incroyable. Mais je me suis dit, bon, bah voilà, c'est entre moi et mes souvenirs, quoi. Je sentais que c'était exactement au bon endroit, tu vois. Je peux comparer avec la scène. Quand t'es sur scène, parfois, ça se passe trop bien, en fait. Genre, vraiment, le public, il rigole. Toi, t'es à l'aise, t'as aucun stress. T'improvises. T'as l'impression de sortir un peu de ton corps et de regarder, de te regarder faire des blagues sur scène, tu vois. Bah, ça arrive peut-être 1 fois sur 5. C'est un espèce de moment de grâce incroyable. Bah, là, je sentais pareil quand j'étais en train de faire le montage. Je sentais que c'était juste, quoi. Voilà, que tout était juste, au bon endroit. Et ça a été un honneur que ce soit aussi vu et aussi regardé. Je pense que c'est une vidéo qui parle de deuil plus que de ma petite rupture amoureuse. Et donc, je pense que c'est pour ça que ça a beaucoup touché, parce que je me suis même pas demandé, oui, les gens, quand ils vont voir la vidéo, ils vont penser si ça. J'ai parlé du fait d'oublier quelqu'un de cher et d'une rupture brutale et de perdre quelqu'un de cher brutalement. Et je pense que ça a parlé à beaucoup de gens qui ont connu le deuil, et c'est le propre de l'humanité, donc voilà.
Et puis elle est vraiment bouleversante, je trouve, parce que on sent ta sincérité, même là, quand on entend le début, on a envie de te faire un câlin. Mais comment tu l'as vécu, toi, après, que ça soit autant partout, pendant plusieurs jours, comme ça? Enfin, ça a dû être quand même une expérience étrange.
Ouais. En vrai, c'est pas du tout agréable de faire un buzz d'un point de vue individuel. Alors, c'est très flatteur, c'est tout ce que je pourrais dire. Non, mais en fait, t'es content en tant qu'artiste que ce soit beaucoup regardé, tu vois. Quand tu fais un spectacle, t'es content quand il y a du monde dans le public, quoi. Mais vraiment, je sais pas ce qu'il y a d'agréable dans un buzz, parce que déjà, t'es harcelé par les journalistes qui veulent te coller n'importe quoi sur ton projet, alors que toi, t'es juste un artiste et t'as pas décidé d'où ça allait, de l'ampleur que ça allait prendre. Donc moi, j'ai éteint mon portable et j'ai demandé à ma meilleure amie, Louane, de lire les commentaires et de me faire un résumé objectif. Je fais souvent ça quand il y a des buzz, des bons, des mauvais. Et en gros, c'est beaucoup mieux d'avoir une pote qui dit 80% des gens ont genre adoré, trouvent ça incroyable. 20% des gens disent... et 4% sont méchants, je vais pas te dire ce qu'ils disent, tu vois. C'est beaucoup mieux ça, plutôt que de lire les 4% de commentaires méchants, tu vois. Donc voilà, moi c'était frais aussi. J'étais encore très émue par cette rupture amoureuse. D'ailleurs, dans la vidéo, je raconte pas du tout que ça va mieux. Je raconte comment j'ai tourné la première page, quoi. Puis après, ça a plus mis quelques années, en fait, à disparaître, le chagrin. Donc moi, c'était un sujet très très sensible, donc je me voyais très mal arriver sur les plateaux de télé et dire « c'est vrai que voilà comment on se remet d'une rupture amoureuse ». C'est pas du tout ce que je raconte dans la vidéo, je raconte juste comment tu te relèves de la première chute, quoi. Je parle pas comment soigner les blessures, etc. Et donc j'ai pas très bien vécu ce buzz, en vrai c'était super intense. Et après, il faut savoir que ça m'a collé pendant des années, quoi.
Il y avait des gens... Mais c'était cool parce que moi, je me dis, j'ai ému beaucoup de gens et j'ai aidé à beaucoup de gens à se remettre du deuil. Donc, j'essaie de me concentrer là-dessus. Il y a des gens encore aujourd'hui. Hein, c'est 2-3 messages par jour.
Ah ouais, c'est...
Ouais, de gens qui me disent merci, j'ai vu cette vidéo, ça m'a bouleversée. Ou qui me racontent leurs histoires de deuil, de rupture amoureuse, etc. Donc ça, je me concentre là-dessus et ça, c'est génial et tout. Mais pendant plusieurs années, il y avait des gens qui me disaient « ça va ?» dans la rue, tu vois. Genre, « comment tu vas maintenant ?» ou genre qui me disaient, ou qui pleuraient dans mes bras en soirée alors que moi, j'y pensais même pas, genre j'avais complètement oublié. Donc finalement, c'est un truc aussi qui m'a collé à la peau et qui me rappelait ma rupture amoureuse tout le temps, tu vois. Genre, pendant un an et demi, t'es là, genre tu vis ta best life avec ton nouveau mec et tout. Puis il y a quelqu'un qui est là, genre... ça va mieux ta rupture, toi t'y penses pas, genre depuis 2 semaines tu bois des cocktails sur la plage et tout. Et voilà, c'est comme ça que je vis mes nouvelles relations amoureuses, c'est boire des cocktails sur la plage.
Ouais, c'est ça.
Et non mais voilà, mais là je suis trop contente parce que voilà, je pense que c'était l'une des plus belles vidéos que j'ai montées et que je montrais peut-être dans ma vie. Je suis trop fière de ce projet artistique. Et je sais que ça a aidé beaucoup de monde. Voilà, c'est ce qui reste 2 ans après. Et aujourd'hui, bah voilà, maintenant je suis l'humoriste féministe et écolo. Il y a plein de gens qui savent pas du tout que j'ai vécu une rupture difficile, qui me suivent. J'y pense plus. Enfin, donc ça, c'est trop chouette. Mais pendant longtemps, c'était limite, on m'a collé cette étiquette. Et voilà, donc c'est les bons et les mauvais côtés du buzz.
L'homme dont tu parles dans cette vidéo, il avait réagi comment ?
Il a mal réagi. Il l'a pris contre lui et aussi contre... Enfin, limite comme une campagne contre les hommes. Mais c'était pas du tout le sujet, on parlait du deuil et tout. Donc lui, il a mal pris. Mais bon, moi, j'avais mal pris quand tu m'as quitté par mail, donc... Parfois, les gens se comprennent pas. Et,
ouais, c'est ça.
Et c'est comme ça, et je vous souhaite beaucoup de bonheur, mais voilà, il était pas content. Ouais.
Aujourd'hui, tu crois encore à l'amour ?
Ah ouais ! Ouais, ouais, grave. Je crois complètement à l'amour. Et moi, je pense, enfin, je sais pas, mais je pense que l'amour fou hétérosexuel pour toute la vie qui t'amène à tout quitter pour quelqu'un, je pense que ça arrivera plus dans ma vie parce que j'ai construit d'autres façons d'aimer et tout. Mais j'y crois pour les autres, tu vois. L'amour exclusif de la vie, pourquoi pas, si ça rend certaines personnes heureuses. Et je crois à plein de formes d'amour différentes dont beaucoup traversent ma vie et c'est trop joyeux.
Est-ce que tu penses que sans cette rupture traumatique, aujourd'hui, tu serais aussi engagée ?
Ah ouais, non, sûrement pas. Non. Parce que ouais, c'est vrai que déjà, j'aurais une vie avec quelqu'un de pas du tout engagé. Donc souvent, y a des gens qui me racontent leur couple et qui me disent « Bah oui, mais moi, j'aimerais bien arrêter de prendre l'avion, mais mon mec, ça le saoule. » Ou ma meuf, ça l'intéresse pas, je suis là, eh ben, change de meuf.
Genre vraiment.
Non, je pense pas. Déjà, j'aurais eu moins de temps parce que la relation, comme je l'ai vécue en tout cas, exclusive et très passionnelle, ça prend énormément de temps et d'énergie. Et donc, moi, j'aurais eu moins de temps pour lire, pour militer, manifester, etc. Et puis, ça m'a permis de mettre beaucoup de fougue dans d'autres choses, finalement. Donc, je pense pas que j'aurai cette vie très engagée.
On va juste faire une mini pause. On se retrouve tout de suite après ça. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est toujours On peut plus rien dire. Et je suis toujours aussi contente d'échanger avec l'humoriste et l'artiste Swann Périssé. Alors, le nom de ce podcast, c'est On peut plus rien dire. Et on cherche à savoir si c'est vrai qu'on peut plus rien dire, justement. Et moi, à force de réfléchir à cette question, je crois qu'il y a du vrai quelque part dans le fait qu'on peut plus rien dire, mais pas du côté des réacs, pas tel qu'on l'entend. Je suis plutôt inquiète quand je vois le nombre de nos sœurs féministes ou militantes qui quittent les réseaux sociaux parce qu'elles sont épuisées, soit par le harcèlement qu'elles reçoivent, soit par les raids qu'elles subissent. Et rappelons quand même que Internet, c'est la vraie vie, et quitter les réseaux sociaux, ça veut dire être silencé. Et toi, récemment, t'as fait une vidéo qui a fait l'objet d'un raid masculiniste. On peut l'écouter pour voir un peu le contexte.
L'autre jour, j'étais dans le métro avec mon énorme sac à dos de voyage et mes rollers qui dépassaient. Je me suis rendu compte que je bousculais tout le monde. Je me suis dit, tiens, je me rends pas compte de la place que je prends dans l'espace public. Et pendant un instant, je me suis sentie comme un homme blanc non déconstruit. C'est donc ça l'effet que ça fait de ne pas prendre en compte les besoins des autres. C'est donc ça de faire comme si nous étions tous sur un pied d'égalité. C'est pas de ma faute, c'est la faute du sac à dos. C'est pas de ma faute si vous êtes pris les roues de mes rollers sur le visage. Fallait regarder un peu, hein. Bah, mes rollers sont là, ils brinquent balles. Écoutez, adaptez-vous à moi un peu. Je ne prends pas la place de cette femme. J'ai juste les jambes écartées dans le métro. J'ai juste besoin d'espace, moi. C'est pas de ma faute si j'ai des choses entre les jambes. Je vais pas serrer les jambes pour les autres. Mais non, Judith, la seule raison pour laquelle je t'interromps, c'est parce que c'est trop long. Il faut y aller, là.
Judith, c'est pas de ma faute. Tu parles trop.
Eh, mais moi, si j'étais un homme, je serais un masculiniste de ouf.
Et franchement, je comprends trop qu'ils renoncent pas à leurs privilèges.
C'est si confortable
d'être dans le déni permanent.
C'est un bon sentiment. On dirait du papier toilette avec plusieurs couches.
Celui qui coûte cher de ouf, genre.
J'ai l'impression que tu te mets un matelas dans l'anus. Aucune remise en question, bats les couilles.
On peut plus rien dire.
On va le dire quand même.
Comment ça s'est passé pour toi quand tu les as vus débouler?
Alors vraiment, moi, j'étais pas sur Internet. Donc moi, je les ai pas vus débouler.
Ah mais oui, c'est vrai, t'as fait une story d'ailleurs après pour dire que tu t'étais même pas rendu compte qu'il y avait eu ce raid.
Ouais, en vrai, moi, ça m'a... Enfin, j'ai beaucoup de... On pourra en parler après, hein, de respect et de considération pour les gens qui souffrent de ça. Mais moi, ça me fait pas du tout souffrir, en fait. Donc moi, j'étais dans un éco-village avec un amant en plus, je crois. Donc j'ai sûrement fait l'amour et planté des choux, genre. Donc moi, ça m'a rien fait. J'ai énormément de distance sur les commentaires, les raids masculinistes et le seum et tout. Donc forcément, il y avait donc 2-3 jours plus tard, j'ai dû me reconnecter. Il y avait des restes, quelques stories qui m'insultaient. J'ai vu du coin de l'œil qu'il y avait genre 2500 commentaires. Donc forcément, 2500 commentaires quand je critique les hommes masculinistes, enfin les hommes blancs hétéros non déconstruits. Bon bah, je sais qu'ils sont, présents, ils sont dans la place. Vraiment, je m'en fous complètement. Et puis, je me suis dit, je me suis pas dit, oh mon Dieu, ils sont vexés. Je me suis dit, ben oui, ils sont vexés. Mmh. Je me suis dit, si t'es un homme blanc hétérosexuel déconstruit, bah tu vas pas te vexer, tu vois. C'est caricatural, c'est rigolo, c'est des blagues.
Politiquement, ça t'inquiète?
Franchement, enfin... Moi, je peux que parler de mon point de vue personnel. Je suis pas assez connue pour avoir vraiment des conséquences dans ma vraie vie. Et puis surtout, ils peuvent pas me retrouver parce que moi, je suis très nomade. Donc, j'ai vécu dans une caravane. Là, j'ai fait 1600 km à vélo. Je fais jamais des stories sur le coup où je montre où je suis. Mes proches, en fait, les gens savent pas de qui je suis proche. Enfin, voilà, j'ai des très bons... J'ai eu plein d'amis, j'ai une vie amoureuse épanouie. Donc vraiment, de mon point de vue personnel, enfin, je m'en fous complètement.
C'est génial, si t'arrives à ce que ça te glisse dessus, c'est
au-delà,
super.
Ouais, c'est au-delà, genre, je suis trop occupée, genre, vraiment.
Ouais. Ouais, j'ai autre chose à foutre.
Voilà.
Quoi.
Mais par contre, je suis très inquiète pour les gens à qui ça arrive. En effet, c'est très violent. Mais en fait, moi, c'est aussi parce que j'ai 10 ans de carrière, je pense, et que je me suis pris des bites sur scène d'une violence. Et en gros, ben, moi, les premières personnes qui me critiquaient, c'était genre les publics qui huaient, c'était du mépris humain, enfin des trucs beaucoup, enfin très 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 violents. Donc aujourd'hui, moi, je sais que...
Il y a vraiment des gens qui huent?
Oh, bah, quand c'est vraiment nul et que ça dure une demi-heure sur scène, oui, tu vois, oui, oui. Mais bon, ou alors qu'ils te regardent pas dans les yeux, c'est des humiliations bien plus grandes que quelqu'un qui dit « suce ma bite » ou « je vais venir te violer ». Bon, pourquoi pas, tu vois. C'est leur façon de s'exprimer. Mais bah, en gros, je lis pas les messages, je chill, je regarde des films, je sais pas, je fais autre chose, quoi. Mais politiquement, bien sûr, oui, c'est terrible, mais je pense que ça va affecter des gens qui sont pas habitués aux réseaux sociaux. Moi, j'ai toute ma carrière allée sur les réseaux sociaux. Et en plus, j'ai l'expérience de la scène où je sais que 75% des gens ne partagent pas mon humour, voire 95%, et c'est les 5% des gens qui m'ont trouvé sur Internet, qui m'adorent, qui vont adorer mon humour. Donc, enfin voilà, moi je rigole pas aux mêmes choses que ma maman, que ma cousine. Voilà, donc voilà, je parle vraiment de mon expérience personnelle. Oui, c'est terrible, mais les réseaux ne sont pas la vraie vie, quoi. Moi, dans la vie, ce qui me touche, c'est si j'ai fait une vanne qui a touché un proche. Si j'ai fait une maladresse ou un truc voilà qui a tout... En fait, c'est vraiment que ça qui va me toucher, en fait. C'est ouf,
mais parce que j'ai une expérience très développée sur les réseaux et aussi parce que je suis pas assez connue. Enfin, moi, je sais que Léna Situation, récemment, c'est allé jusqu'à ses parents. Peut-être que ça m'arriverait aussi si j'avais une adresse fixe, mais les pauvres...
bonne chance pour trouver la caravane.
C'est pas le cas, donc, ouais, c'est ça, genre, si vous voulez m'envoyer... je sais pas, des préservatifs usagés quelque part, ils trouveraient pas mon adresse, les pauvres. Mais c'est une bonne idée, ça, franchement. Mais bon, le faites pas, parce qu'on retrouve facilement les ADN
ouais,
aujourd'hui.
C'est ça.
Je vous le déconseille. Après, ça me ferait beaucoup rire de vous retrouver via ça, mais... Bon, voilà, donc en gros, moi, ça me touche pas. Et c'est terrible que ça touche... voilà. Moi, ce qui me fait trop plaisir, c'est quand il y a des femmes politiques qui se sont pris des méga raids, des trucs super violents. Donc beaucoup plus violent que moi, des trucs voilà qui passent au national, genre aux infos et tout. Et ça me fait trop plaisir quand je les vois revenir quelques mois après ou quelques années après en politique et tout. Ça c'est trop badass quoi. En fait c'est superficiel finalement ces gens-là. C'est un monde, c'est une sphère qui n'existe pas en fait. Ça n'existe pas. D'ailleurs la vidéo que j'avais faite pour me moquer des gens qui s'étaient moqués de moi, j'avais dit genre si vous voulez vraiment énerver une trentenaire, faites en sorte qu'il y ait plus d'isolants écologiques. À Leroy Merlin, tu vois, genre, il n'y a plus de boîte de cellulose, bah ça va me toucher, mais vous ne pouvez pas harceler en ligne une personne âgée, quoi. J'étais là, genre, c'est... Enfin, voilà, il faut lui enlever une roue de son caddie, ou genre, aller mal parler de moi à ma gardienne d'immeuble, tu vois, genre, ça va affecter ma vie. Mais moi, le matin, je vais au marché, en fait, voilà, donc je vais au marché, enfin, tu vois, donc, ça m'affecte moins, je pense, que si j'avais peut-être 16, 17 ans, et que j'étais tout le temps sur les réseaux, et que c'était ma vie. Ma vie, c'est pas ça, quoi.
T'avais fait aussi une vidéo qui s'appelait « Je suis moins connue, mais je suis plus heureuse ».
Ouais.
À un moment, t'as dû faire cet arbitrage ?
Ben, en gros, moi, avant, j'ai eu plein de périodes dans ma carrière, mais il y avait un moment où je faisais vraiment que des vidéos de divertissement, et j'en faisais deux fois par semaine, etc. Et elles étaient extrêmement vues. C'était un moment aussi où je traînais avec d'autres youtubeurs qui étaient encore plus connus que moi, qui avaient vraiment des millions d'abonnés et tout. Et donc, on bénéficiait des communautés les uns des autres, quoi. On était dans les algorithmes, on était vachement regardés et tout. Puis, il y a eu un moment où moi, j'ai plus pu, j'ai commencé à bon, il y a eu la rupture amoureuse, je me suis séparée de ces gens avec qui je travaillais parce qu'on n'était plus en phase au niveau des valeurs. Et donc, il y a eu un moment où bah, voilà, l'algorithme m'a un peu mis de côté parce que moi, j'ai plus fait de vidéos, j'ai eu besoin de temps pour moi. Et puis aujourd'hui, en tant qu'artiste, j'ai besoin de temps pour préparer mes projets, pour les faire, puis pour les monter, puis pour que ça redescende et tout. Et en gros, pourquoi j'ai raconté tout ça ? Ah oui, bah, en fait, il y avait un moment où moi, toutes mes vidéos, elles faisaient 800 000 vues sur YouTube. Et puis, un autre moment où mes vidéos, elles ont fait que 100 000 vues. Mais bon, quand t'es YouTuber, que tu fais 800 000 vues, puis que tout à coup, tu fais 100 000 vues, t'es très tenté de dire, bah, ça marche plus personne ne m'aime, je suis à la poubelle et tout. Bon, déjà, il se trouve que depuis, je refais des millions de vues dans d'autres formats, sur d'autres plateformes. Donc, l'ego, ça va. Mais surtout, je sais plus qui... il faudrait que je le sache, parce que j'en parle parfois en interview, mais je sais plus qui disait la célébrité, c'est le nombre de personnes qui te voient multiplié par l'impact que tu as dans leur vie, multiplié par la durée avec laquelle ils t'écoutent ou ils te voient. Donc, toi et moi, il y a des gens qui nous ont changé la vie, on les a croisés 10 minutes dans notre vie, tu vois. Et pourtant, ils nous ont dit un truc, ça nous a marqué pour toujours. Bah, ces gens-là, ils ont une énorme influence. Toi et moi, on s'en fout qu'ils fassent des millions de vues ou pas, tu vois. Donc déjà, moi, je pense, avec les messages que je véhicule aujourd'hui, que je peux marquer des gens pour longtemps, tu vois. Ensuite, multiplié par l'impact que tu as dans leur vie, moi, j'essaie d'inciter à un changement de vie plus écologique. Les messages que je dis sur la sexualité, j'essaie que les gens... enfin, moi... Ça me rend trop contente quand il y a plein de femmes qui m'écrivent qui disent « j'ai largué mon mec, quoi ». J'ai vu ton truc, j'ai fait « écoute, Jérôme, ça fait 6 mois que je te dis que c'est comme ça que je jouis, et tu t'en bats les couilles, c'est ciao Jérôme ». Bah moi, ça me fait plaisir, tu vois. Enfin, voilà. Ben,
c'est clair.
Jérôme était sûrement aussi malheureux, mais en tout cas, Laetitia, elle était plus, et elle est partie, quoi. Donc ça, je me dis, attends, avant, je faisais des vidéos de moi qui faisais des pranks au supermarché, Bon, je pense pas que les gens ont largué leur copine ou leur copain après pour aller vivre une vie sexuellement plus épanouie ou en tout cas où ils se sentaient plus respectés au sein de leur couple. Donc, multiplié par l'impact que tu as dans leur vie, multiplié par le nombre de personnes. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, bah, le nombre de personnes qui me regardent, c'est moindre, enfin, et inférieur à avant. ça fait pas moi, ça fait pas de moi quelqu'un de moins connu ou qui ait moins d'impact dans la vie des gens. Et voilà, bah moi ça m'a trop détendu en fait, de plus devoir faire des vidéos toutes les semaines. Ça m'a trop détendu dans la vie, ça m'a rendue tellement plus heureuse. Et maintenant les vidéos que je vais sortir, parce que ça fait longtemps que j'ai pas sorti de grosses vidéos sur YouTube, mais j'ai continué sur Instagram. Bah les vidéos, voilà, c'est des projets qui arrivent après plusieurs mois de travail. Des trucs que j'ai incarnés même dans mon corps, parce que la prochaine vidéo, je te le dis en exclu, personne ne le sait.
Trop bien.
Mais je sors une vidéo bientôt sur mon don d'ovocyte, donc j'ai donné mes ovules en gros. Et donc je raconte ça parce que ça prend plusieurs mois, c'est beaucoup de tests médicaux et tout. Donc j'ai filmé tout ça et je pense que la vidéo est à la hauteur de ce que je voulais montrer. Et j'avais envie de donner envie aux gens de le faire sans cacher que c'était quand même un processus lourd. Et ben moi c'est trop bien que l'algorithme est boudé et que je m'en fous que je fasse pas trop de vues parce que ça m'a permis de faire ce projet trop bien. Après je vais sortir la vidéo sur les 1600 km à vélo. Donc tout ça prend du temps et en fait c'est pas compatible avec le rythme très rapide de YouTube.
Parce que l'algorithme de YouTube, il te met en avant si tu publies tous les jours, tous les deux jours ou deux fois par semaine, c'est ça. Alors, le contrat tacite un peu.
Non, il y a beaucoup de choses.
Beaucoup
donc je pourrais
choses.
Pas me permettre de dire ça, je pense qu'il y a peut-être 6 ou 7 critères. Mais l'un des critères, c'est la régularité. Donc, pas faire une vidéo toutes les semaines, mais si tu dis que tu fais une vidéo tous les deux mois, tu fais une vidéo tous les deux mois. Et tu sors la même date à la même heure, tu vois. Donc ça, c'est l'un des critères, mais il y a plein d'autres critères. Il y a le watch time, donc combien de temps les gens y restent pour regarder ta vidéo. Donc, si tu te filmes en train de faire mal des claquettes mal éclairées dans une cave, personne ne va regarder tes vidéos et l'algorithme ne va pas te féliciter. Donc, voilà. Mais c'est un système, je trouve, comme très capitaliste, qui incite beaucoup à la consommation. Il faut que les gens y regardent longtemps, il faut qu'ils rigolent, il faut que ce soit divertissant, il faut que ce soit long pour pouvoir mettre des pubs, il faut que ce soit régulier et tout. Puis moi, ça ne va pas avec mon rythme artistique, en tout cas pas en ce moment dans ma vie. Donc, moi, je suis contente de m'être émancipée de ça. Et surtout, il y a plein d'autres réseaux qui me permettent de toucher quand même beaucoup.
Et sur Insta, c'est aussi contraignant, la pression de l'algorithme ?
Moi, je connais pas très bien l'algorithme d'Insta. Je suis vraiment pas la meuf la plus connue sur Insta et tout. Mais par contre, j'ai fait un gros effort. Donc là, en février 2022, j'ai sorti une vidéo par jour, un réel par jour, des petites blagues et tout. Un peu comme ce qu'on a écouté ensemble précédemment. Et bah là, c'est incroyable. Genre, j'ai pris 85 000 abonnés. Ça booste de ouf. Toutes tes vidéos, elles font 400 000 vues. Puis tu reçois tellement de messages d'amour. Et puis c'est pas ouais c'est trop drôle, t'es trop drôle, c'est genre bah voilà j'ai je suis grave sexuellement épanouie grâce à toi ou
wow.
Ou j'ai osé dire à mes parents ça tu vois, donc c'est des trucs tu dis ah mais tu te sens le roi du monde et tout, alors que bon on s'en fout, enfin c'est pas qu'on s'en fout mais il faut redescendre et ne pas oublier que t'es une humoriste, voilà. Et là c'était très dur d'arrêter, donc j'étais avec Mathéo, on écrivait les vannes et tout. Et je lui ai dit, genre, j'ai le vertige, quoi. Je veux que ça continue. Je veux être la plus connue d'Instagram. Alors que je ne serai jamais la plus connue d'Instagram parce qu'il y a Kim Kardashian et Kylian Mbappé. Et pourtant, ils ne font pas des vidéos aussi drôles.
Non, bon, c'est clair.
Ça, c'est juste mon humble avis. Et non, mais surtout que les femmes humoristes que je suis, que j'admire trop sur Instagram, en gros, ça y est, elles avaient beaucoup moins d'abonnés que moi, tu vois. Donc, tu deviens un peu fou. Et en gros, on s'est dit, il ne faut pas le faire. Parce que moi, ce que je fais dans la vie, c'est pas des vidéos drôles sur Instagram, c'est aussi beaucoup d'autres choses. Et du coup, j'ai arrêté malgré tous les gens qui me disaient il faut le faire. Et du coup, les abonnés ont arrêté de monter, les vues ont arrêté de monter. Mais je le referai tous les ans en février, peut-être même deux mois par an, parce que c'est trop fun à faire. Mais en gros, c'était devenu toute ma vie. Voilà. Le matin, j'arrivais, je me disais ah, sur quoi je pourrais faire des blagues, comment ça peut faire une minute, blablabla. En fait, moi, j'ai besoin d'autres choses pour m'épanouir. D'un point de vue personnel, mais d'un point de vue artistique aussi. J'ai besoin de faire un projet pendant trois mois que je garde secret. Tout à coup, je sors une méga vidéo. J'ai besoin d'écrire. J'aimerais écrire un spectacle de stand-up et tout. Donc en fait, si je décide tout à coup de faire une vidéo par jour sur Instagram tout le temps, bah oui, j'aurai plus d'abonnés. Mais est-ce que c'est vraiment ce que je veux dans ma vie artistique? Est-ce que c'est vraiment les messages que je veux véhiculer? Ben, ça m'amuse un ou deux mois par an et c'est trop chouette et j'ai trop de reconnaissance envers toutes les vues que j'ai. Mais je veux aussi développer d'autres projets qui ne me permettent pas de faire ça. C'est à plein temps de faire ça. Tu
vois. Ce qui est fou aussi, c'est ce que je sais plus où tu racontais ça, c'est que quand tu avais fait ta vidéo sur ta rupture, quelqu'un chez YouTube t'avait expliqué maintenant ce qu'on attend de toi, c'est du contenu, chagrin d'amour, relation. Enfin, c'est pour ça que les gens sont venus et donc maintenant il faut que tu restes dans cette case, quoi.
Alors, la première partie de ce que tu dis est vraie, mais la deuxième partie est faux. et fausse dans le sens où elle m'a pas dit maintenant il faut que tu restes dans cette case. Mmh. Elle m'a expliqué pourquoi il y avait eu beaucoup de désabonnements. Donc en fait, avec la vidéo de la rupture, j'ai eu 170 000 abonnés en genre une semaine sur ma chaîne YouTube. J'en avais déjà pas mal, mais ça a été très impressionnant. Et en fait, elle m'a expliqué que ces gens, ils étaient venus pour ce genre de contenu. Mmh. Et que si maintenant je voulais faire des contenus humoristiques féministes, des aventures écologiques, etc., j'allais avoir des abonnements, quoi. Mais elle m'a dit, si ce que tu veux, c'est faire des vidéos féministes ou écologiques, t'inquiète, dis-le à tes abonnés et dis-leur même de se désabonner. Tu vois, elle m'avait dit, aie le courage de dire, maintenant je vais faire ça. Donc ceux qui ne veulent pas, voilà. Et en gros, elle m'a dit, tu vas avoir beaucoup de désabonnements pendant plusieurs mois. Puis à un moment, ça va se stabiliser et les gens resteront pour ce dont tu as envie de parler. Et moi, en fait, je n'ai jamais su vraiment ce que je voulais faire parce que je suis un peu une artiste dans tous les sens, j'aime pas trop cadrer. J'ai toujours aimé faire des vidéos diverses et variées. Et du coup, j'ai jamais eu le courage de faire ça parce que je savais pas. Moi, je sais pas me projeter sur 6 mois, genre maintenant, je vais faire ce genre de vidéo. Donc, je l'ai pas fait, mais cette femme était incroyable, Morgane. Je sais pas si tu m'écoutes, mais elle me conseillait sur YouTube et tout. Elle m'a dit, en gros, tu peux faire ce que tu veux, mais sache qu'il y aura des désabonnements. Mais elle m'a pas dit. Elle m'a pas dit, du coup, il faut que tu parles que de potins et tout. Voilà mon point de vue en tant qu'artiste. C'est que. La vidéo sur la rupture amoureuse, ça a été une vidéo qui est... Je me souviens, quand je faisais le montage, j'avais rien écrit, rien réfléchi. C'était comme si je composais de la musique, je jouais du piano, j'ai fermé les yeux. Et bon, il faut ouvrir les yeux pour faire du montage. Mais il faut pas mal fermer les yeux aussi, parce que c'est très sonore. D'ailleurs, on l'entend ici. J'entends les mauvais cuts et tout. Genre, il n'y a pas les fade-in, les fade-out. Ça m'énerve. Mais en gros, c'est venu spontanément parce qu'en fait, j'avais vécu l'une des épreuves les plus difficiles de ma vie que j'avais documentée. Et en fait, je me suis dit, tu peux pas faire une vidéo aussi bien toutes les semaines. Et c'est une bonne nouvelle pour toi. Genre, vraiment, j'étais là, parce que cette vidéo, elle était bien parce qu'elle était issue d'un combat de 6 mois, d'une douleur incommensurable. Et du coup, je me dis, tu peux pas vivre un truc aussi fort toutes les semaines. Donc, tu pourras jamais faire une vidéo aussi bien toutes les semaines. Et tant mieux, en fait. Et j'espère que dans ma vie, je referai des projets artistiques aussi forts. Je pense en avoir fait et en repréparer, qui auront ou pas le même retentissement. Mais en gros, c'est pas possible. On peut pas vivre, un être humain ne peut pas vivre des choses qui se transforment en art aussi puissantes et aussi douloureuses toutes les semaines. Et tant mieux. Ouais, c'est que moi, je préfère vraiment ne plus jamais me faire larguer comme ça et être aussi triste et ne plus jamais faire un buzz comme ça que le refaire, quoi. À quel prix, quoi.
Le féminisme a-t-il aussi changé la façon dont tu te sentais dans ton corps?
Non, en fait, souvent ça et le harcèlement en ligne, les gens sont surpris, mais vraiment, moi, je me suis toujours trouvée trop belle.
Pourquoi ça les surprend?
Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des complexes et tout. Après, je sais que je suis... Enfin, souvent, je raconte que moi, j'ai cru que j'étais une top modèle jusqu'à mes 20 ans. Et après, j'ai vraiment capté, surtout en venant sur les réseaux sociaux, les gens, ils étaient là, ouais, c'est tellement cool de voir une femme avec des formes, une femme pas comme dans les magazines. J'étais là, pas du tout, je suis complètement comme dans les magazines. Et du coup, je sais pas, ouais, j'ai jamais eu vraiment de complexe physique et tout. Mais oui, en fait, aussi, par exemple, parfois, je m'épile intégralement de partout et parfois pas du tout. J'assume, ouais, genre mes poils sous les aisselles. Je pense que c'était pas le cas il y a quelques années, en vrai. Mais je pense aussi que c'est redevenu à la mode. Donc c'est pas que le féminisme, c'est aussi la mode, tu vois. J'assume grave mes règles. Parce que je fais beaucoup de sport et tout. Donc limite maintenant, genre mon short est ensanglanté, quoi. Je suis là, Je pue de transpiration, en fait. Donc c'est juste qu'elle se voit moins, mais je suis crade de toute façon, tu vois.
Quand tu fais du vélo, tu veux dire?
Ouais, quand je fais du vélo, pas genre pour aller chiller. En soirée, quoi. Et encore. Mais oui, donc je pense que c'est aussi l'âge, tu vois, genre... Enfin, quand tu fais l'amour avec des amants, genre, à mon âge, quand même, même dans les relations hétérosexuelles, genre, tu peux faire l'amour pendant tes règles, enfin, je vous le souhaite, en tout cas, donc t'es là, c'est un fluide comme un autre, enfin, donc t'évolues énormément là-dessus. Donc, bien sûr que le féminisme m'a aidé à accepter mon corps, mais moi, j'ai jamais été complexée de quoi que ce soit, quoi. Par exemple, ça m'est arrivé de faire des stories... Et je regarde les stories quand je les poste et je me dis, oh là là, mais... Et puis on me voit de dos, de loin. Ça m'arrive jamais, tu vois. Et je me dis, oh là là, mais j'ai de beaux mollets. Je vois mes mollets, je me dis, quel beau mollet. Puis il y a plein de gens qui me disent, oh là là, mais t'as des gros mollets. Et moi, ils sont très beaux, mes mollets. Donc vraiment, j'ai un espèce de regard très bienveillant sur mon corps et tout. Voilà, le féminisme, ce que ça a changé sur mon corps, c'est sûrement le courage de faire énormément de sport alors que je suis pas du tout la meuf sportive, quoi. Mais c'est plus les femmes sportives qui m'ont inspiré ça... Mais en gros, moi, je n'ai jamais été vraiment complexée de trucs. Mais je ne me trouve pas non plus trop belle. Hein. Ça a changé le truc de top modèle, mais ça ne m'intéresse pas trop. Quoi. Pour moi, le corps, c'est vraiment une façon d'avoir du plaisir sexuel, de faire plein de sports, de me déplacer d'un endroit à un autre, de réaliser des vidéos. Donc pour moi, le corps, c'est fonctionnel. Quoi.
Est-ce que tu prépares un nouveau grand défi ou un grand voyage?
Oui.
Où ça?
Je ne peux pas en parler encore, parce que je ne sais pas si ça peut être... public, je peux vous dire que ça sera à 2000 km.
Waouh!
Et que ça sera un peu plus compliqué à organiser parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont fait.
Waouh! Ce teasing!
Mais je prépare un tout petit défi. Je vais courir 10 km le 9 octobre à Montpellier, si vous voulez venir. J'ai jamais couru 10 km de ma vie. Ça devrait le faire, ça devrait le faire.
Ouais, je pense après le voyage en vélo, tu dois être.
C'est un autre entraînement en vrai. Ouais, c'est un autre entraînement, mais. Mais je pense que ça va le faire.
Moi non plus, j'ai jamais couru 10 km. C'est beaucoup quand même.
Ouais, j'ai l'impression que c'est beaucoup. Ouais. Ce matin, j'ai fait 20 minutes. J'étais vraiment très fatiguée. Genre.
Merci beaucoup, Swan. C'était super vraiment de t'avoir ici, de discuter avec toi. Merci beaucoup d'être venue. C'est déjà la fin, hélas, de cet épisode et de cette conversation. Un immense merci à notre réalisateur Paul Berthiaud et à Charlotte Bex, notre chargée de production. On peut plus rien dire. C'est un vendredi sur deux sur toutes les plateformes de podcast. Et moi, je vous dis à dans 2 semaines. Gros bisous.
Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.